liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour. Alors, cette émission créée par les Gilets jaunes a évolué pour s'affirmer comme un espace de parole ouvert à tous citoyens et citoyennes habitant sur notre territoire et ayant quelque chose à dire ou des initiatives à partager concernant notre vie commune, nos biens communs. Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Si vous voulez réagir, voici notre mail paroledecitoyen@frequence7.net, minuscule singulier tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joël Jacquet, qui est venu pour nous parler de la journée des moulins, car il est membre des Amis de la Vallée de la Besorgue et il est aussi membre des Amis du Moulin de Charrier. Et en dessert, comme toujours, nous serons en solidarité avec le peuple palestinien, plus que jamais confronté à la famine, et nous vous partagerons une recette. Alors surtout, prévoyez papiers et crayons. Mais d'abord, en introduction, nous allons parler des luttes passées et à venir. Alors, il y avait eu en lutte passée, il y a eu le 1er mai, il y a quelque temps, et ça a réuni à peu près 400 personnes à Aubenas. On a déambulé dans les rues d'Aubenas, et puis après on s'est tous retrouvés sur la place du château, où on a rejoint le village des luttes, et on a passé un très très bel après-midi. On a été nourris par la cantine populaire, et l'après-midi, il y avait des musiques solidaires et c'était très très agréable. Au niveau des luttes, une lutte dont je voulais vous parler qui est en cours aujourd'hui, c'est le chantier de l'A69. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation environnementale du chantier A69. La justice avait estimé que les gains espérés par ce projet ne constituaient pas une raison impérative d'intérêt public majeur qui justifierait les atteintes à l'environnement causées par ce projet. Malgré cela, des députés et sénateurs veulent court-circuiter la décision de justice en votant une loi pour passer en force et reprendre les travaux. La proposition de loi va être examinée le 15 mai, soit aujourd'hui. Alors, pour un autre sujet, samedi 17 mai, vous aurez la marche blanche à Aubenas qui part de l'Agora à 10h du matin, me semble-t-il, et qui est organisée par le comité d'Aubenas pour la paix. Et enfin, pour continuer cette rubrique des luttes, un sujet qui me tenait à cœur, c'était de rendre hommage à Fatima Hassouna. Le 18 avril dernier, l'annonce glaçante de la mort de la jeune photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, qui venait d'apprendre que son film documentaire avait été sélectionné à Cannes et qui avait tout juste 25 ans. Elle a été tuée avec 10 de ses proches dans sa maison familiale, en pleine nuit, dans le quartier d'Al-Toufa, au nord de Gaza, par, vous vous en doutez, des frappes israéliennes. Son crime a été de tenir une chronique du génocide à travers des articles et des photos. C'est ce qu'un régime génocidaire ne peut permettre, disait Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies. Fatima Hassouni ne voulait pas que sa mort soit silencieuse. Elle avait écrit ceci il y a quelques mois. « Si je meurs, je veux une mort brillante. Je ne veux pas être une simple nouvelle ou un numéro dans un groupe. Je veux une mort que le monde entendra. Un impact qui restera dans le temps, une image intemporelle, permanente. Voilà ce qui allonge la liste des presque 200 journalistes tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Et on va écouter une musique pour conclure cette rubrique.
In 1948, the natives were expelled from the land of their ancestors, their homes and city shelled, from the traitors in Transjordan to clandestine British demand, by the settlers' Zionist army that rampaged across the land. Oh, Palestine, oh, Palestine, we hear your desperate plea that once again across the land your people can be free. Oh, Palestine, oh, Palestine, your people live in fear. We demand
Alors c'était « Ô Palestine » de Seth Staton Watkins. Et à présent, on va attaquer le plat de résistance avec Joël, qui va nous parler des moulins et de la journée qui arrive.
Merci beaucoup. Merci Fréquence 7 pour cette invitation. Alors oui, je vais vous parler de la fête des moulins au Moulin de Charrier, à la Bastide sur Besorgues, qui aura lieu le dimanche 18 mai, donc dimanche prochain, de 10h à 18h. Cette journée s'inscrit dans le cadre des journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, qui est soutenue par le ministère de la Culture, et ces journées ont été créées afin de sensibiliser le public à la sauvegarde du patrimoine bâti et paysager, ainsi qu'aux métiers et savoir-faire traditionnels. Alors, lors de ces rendez-vous annuels, les propriétaires du moulin sont invités à ouvrir leurs portes. C'est le cas donc au Moulin de Charrier, où le propriétaire nous proposera, donc avec l'association des Amis de la Vallée de la Besorgue et les Amis du Moulin de Charrier, des visites guidées du moulin, un marché artisanal, des balades botaniques, de la restauration four pizza four roquette, une buvette, et puis une conférence à 15h30 avec Colette Véron, qui nous parle du moulin seigneurial d'Aubenas et le canal de Baza. Colette Véron à 15h30. Voilà pour la journée.
Alors, ça me donne envie d'écouter un petit extrait musical à ce sujet.
Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main, vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné, petites mains ont bien frappé, petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé.
Alors Joël, tu voulais nous donner des nouvelles des Amis de la Vallée de la Besorgue.
Voilà, donc je vais enchaîner par l'actualité des Amis de la Besorgue. Alors, actualité qui est toujours fournie. Nous allons profiter de la journée des moulins pour proposer notre édition numéro 5 de l'écho de la Besorgue, notre feuille de chou. Et dans l'édito, nous avons fait un petit article sur la langue de bois. Vous savez, cette manière de s'exprimer qu'utilise avec une grande facilité bon nombre de nos dirigeants. Et aujourd'hui, on se rend compte que la langue de bois est remplacée par de la mauvaise foi de la part de nos politiques. Alors on a un spécialiste à la Bastide-sur-Besorgue avec notre maire, qui est un spécialiste de la mauvaise foi, avec qui on a beaucoup de mal à avoir du dialogue. Dans cet édito également, enfin dans cet numéro 5, Écho de la Besorgue, on a un article bien renseigné sur l'écologie de la rivière, comment mesurer l'état de santé biologique d'une rivière, et on donne des résultats sur la Besorgue, qui est par ailleurs en bonne santé. Bon, vous trouverez également d'autres articles sur lesquels je ne m'étends pas, sur des projets pharaoniques de notre maire de la Bastide-sur-Besorgue. Voilà, vous découvrirez tout cela dans l'édito. Et puis, concernant maintenant notre actualité, qui est également repris dans notre écho de la Besorgue, eh bien, cette année, nous avons mis en place un groupe autour de l'arbre et des greffes. Alors, nous avons déjà prélevé des greffons au début janvier, puis fait un atelier greffe, où on a eu nous avons eu du succès, disons-nous. On a fait une belle journée. Nous avons également proposé une après-midi taille de jeunes arbres fruitiers. Voilà, et une réflexion autour de la taille des arbres fruitiers. Vous verrez tout cela dans le journal. Alors, à venir, eh bien, la journée des moulins, on en a parlé. Et puis, nous avons les marchés cet été, tous les jeudis. Nous aurons les marchés tous les jeudis de juillet et de août, de 18h à 21h, sur la place de la Bastide-sur-Besorgue. Voilà. Sinon, j'avais oublié que nous avons aussi passé le film La Rivière. Et un dernier petit détail, si j'ai encore 30 secondes, c'est que lors des moulins, on pourra cette année aller visiter le moulin de Pérou, qui est à 600 mètres du moulin de Charrier. Voilà.
Ben merci pour tous ces renseignements. Ben on va aborder le sujet de l'agroécologie, comme je sais que c'est un sujet que tu affectionnes beaucoup. Et que ça va intéresser beaucoup de jardiniers. On va d'abord s'écouter une petite musique médiévale de l'ensemble Tourmis, le jardin allégorique. C'est la chanson de printemps.
C'est à ce joli mois de mai que toutes choses renouvellent. Entièrement le cœur de moi. Les arbres par leur grande beauté se sont très couverts de vert. Les oisillons y ont chanté.
Alors, j'ai choisi cette chanson médiévale parce que je trouve que l'agroécologie, ça m'inspire justement des techniques anciennes et raisonnées.
Bien. Eh bien, effectivement, l'agroécologie est un sujet qui me tient à cœur. Je sais que vous le partagez aussi avec Terre Humanisme sur l'antenne de Fréquence 7. Alors, je vais vous parler d'un sujet précis aujourd'hui, qui sont les symbioses. Ah, c'est quoi les symbioses? Eh bien, dans le monde du vivant, vous savez, il y a beaucoup d'associations entre différentes espèces. Et nous, les humains, nous connaissons surtout la compétition, la prédation. Mais le vivant, c'est quand même beaucoup construit sur la mutualisation et les collaborations appelées aussi symbioses. Ce sont des associations à bénéfice réciproque. Alors, dans nos jardins potagers, nous allons retenir deux types de symbioses. Celle, premièrement, entre certains végétaux, les haricots, petits pois, fèves, ce qu'on appelle les légumineuses ou fabacées, et certaines bactéries présentes dans le sol. Dans cette association à bénéfice réciproque, les bactéries transforment l'azote atmosphérique, non assimilable par les plantes et contenu dans le sol, en une forme d'azote assimilable par les plantes. Ce sont des nitrates, en fait. Ce nitrate fixé au niveau des racines, dans des nodosités, profite à la plante qui, en contrepartie, nourrit les bactéries se situant au niveau de ses racines par ce qu'on appelle des exudats racinaires, qui sont des sucres issus de photosynthèse. Alors, en conclusion, dans un sol vivant, inutile donc d'apporter une fertilisation azotée aux légumineuses, car elles se débrouillent toutes seules et évitent d'arracher, et on peut donc éviter d'arracher les haricots, par exemple, en fin de culture. On laisse les racines et cela profitera aux prochaines cultures. Alors, le deuxième type de symbiose, ce sont les symbioses que vous connaissez tous, qui sont les symbioses entre les végétaux et les champignons. Alors, les ectomycorhizes sont des associations surtout avec les arbres et les arbustes qui se situent au niveau des racines. Mais dans les jardins, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les endomycorhizes. Et là, beaucoup, beaucoup de végétaux, 90% des végétaux, réalisent ces symbioses avec ces champignons. Alors, nous devons considérer le mycélium, donc partie souterraine des champignons, comme des aides très importantes pour les plantes, car celle-ci fonctionne, ce mycélium, comme un prolongement des racines, et la plante dépensera moins d'énergie à réaliser une association avec des champignons qu'à fabriquer de longues racines. Ces symbioses mycorhiziennes apportent un bénéfice aux plantes du point de vue de leur alimentation et aussi de leur protection contre les maladies. En effet, les champignons non pathogènes vont investir la plante jusqu'au cœur même des cellules pour apporter de l'eau
du phosphore, par exemple, mais surtout pour les protéger, leur apporter des antibiotiques et fermer les portes aux pathogènes, comme le mildiou. Et les champignons ont tout intérêt à protéger la plante, car elles les hébergent et les nourrissent de sucre et de lipides. Alors pourquoi donc ne pas faire confiance à la nature ? Le travail du sol, par exemple, par retournement, tue le mycélium et perturbe le monde bactérien. Et les pratiques telles que le labour ou le bêchage sont à l'origine du cycle de dégradation des sols et de cette fertilité dite naturelle. Il y en a elles sont de trois ordres, ces fertilités naturelles. Biologiques, avec la vie du sol, les vers de terre, les champignons. Chimiques, avec des liaisons entre les parties organiques et minérales des sols. Et puis physique, c'est la structure du sol. Alors, lorsqu'on a ces pratiques, eh bien, on est obligé de compenser par des engrais, des pesticides, des fongicides, afin de pallier à ces pertes de fertilité naturelle et à la vulnérabilité accrue des végétaux. Alors, prenons aussi l'exemple de la bouillie de bordelaise, qui est un poison, disons-le, n'ayons pas peur des mots, pour la plante, les sols et pour nous. Cette bouillie bordelaise tue tous les champignons sans distinction, c'est un fongicide puissant. Les plantes perdent alors leur protecteur et leur protection et leur immunité naturelle. Ne pouvant plus se défendre, elles deviennent vulnérables et souvent les premiers à revenir seront les pathogènes, comme le fameux mildiou, et c'est un cercle infernal pour le jardinier. De plus, le cuivre s'accumule dans les sols et tue les vers de terre. Mais soyons clairs, on ne pourra difficilement se passer de cette fameuse bouillie bordelaise sans le retour à un sol vivant et des biodiversités aériennes et souterraines. Il serait donc, de mon point de vue, préférable de nourrir la vie du sol par des paillages, composts, couverts végétaux. Cette vie du sol se chargera à son tour de nourrir les plantes et de les protéger des maladies et des pathogènes, plutôt que de nourrir directement les végétaux dans un sol non couvert, resté nu et considéré comme un simple support de culture. Voilà.
Bah c'est vraiment très très instructif et puis j'espère qu'on aura d'autres conseils hein, parce que ça c'était déjà
un petit peu technique quand même.
C'est un petit peu technique mais ça explique beaucoup de choses. Hein,
c'est aussi, surtout pour montrer que la collaboration dans la nature ça existe et que nous les humains nous pouvons regarder ça d'un autre œil.
Mais merci Joël. Maintenant on va passer au dessert. Alors on va écouter. Toujours en solidarité avec le peuple palestinien, l'hymne national palestinien qui s'appelle Maoutini et qui est chanté par des jeunes en 2022. Alors la recette aujourd'hui, c'est une poêlée de mauve sauvage. Donc ça s'appelle le robiz. Comme ingrédient, il vous faut cueillir deux bottes de mauve. Vous pourrez aller par contre sur le marché acheter du persil et de la coriandre, à moins que vous ayez un potager déjà productif. Il vous faut une à deux gousses d'ail, un demi-litre d'eau, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du paprika, du piment, un jus de citron, un demi-citron confit, des olives mauves pour la décoration. Vous allez laver les feuilles de mauve, le persil, la coriandre, les égoutter et les hacher finement. Vous portez à ébullition le demi-litre d'eau. Vous mettez donc les mauves et les herbes dans ce demi-litre d'eau bouillant avec l'ail écrasé. Vous couvrez à feu doux jusqu'à complète évaporation. Ensuite, vous ajoutez l'huile d'olive et vous desséchez le tout en remuant. Vous incorporez ensuite le sel, le jus de citron, le paprika, le piment, le citron confit coupé en morceaux et vous mettez dans un plat que vous décorez avec les olives. C'est à manger froid avec du bon pain et je vous souhaite un bon appétit. Il est temps de conclure l'émission. Donc, je vous rappelle le mail de l'émission, paroledecitoyen@frequence7.net. Et on se dit déjà à 15 jours. Au revoir à Joël.
Merci, au revoir.
Et merci à Sylvain pour la réalisation et la technique de cette émission. À bientôt.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré compte.